au 25 septembre 1985. C'était, sauf erreur, rue de Montcenis, dans une maison, je me souviens encore. Et j'étais debout avec une petite table devant moi. Oh, c'était sympathique. Et c'est là que le révérend père Rodriguez, que vous avez connu pour certains d'entre vous, qui m'appelait son coadjuteur, ça faisait très ecclésiastique, était là déjà, il s'apprêtait à quitter Dijon. Ce fut en 86. Et après quelques années de prise de distance volontaire, je suis venu parmi vous 4 à 6 fois, surtout dans les années 2000. 4 à 6 fois par an, bien sûr. Et alors aujourd'hui, 28-04-20-24, ça c'est le nouveau numéro de téléphone. Je suis à nouveau devant vous et peut-être, je ne sais pas, pour un dernier culte. En tout cas, un des derniers. À moins que vous ne m'invitiez tous les dimanches. Je vous souhaite du courage. Mais si vous pouvez tenir jusqu'en septembre 2025, alors nous aurons atteint les 40 ans de collaboration. Une collaboration épisodique, mais bienfaisante, de part et d'autre. Et je garde d'excellents souvenirs de mes passages parmi vous. Alors ce matin, ça n'est pas une cérémonie d'adieu, parce que je suis encore sur cette terre. Apparemment, Dieu ne veut pas encore de moi. Mais bon, c'est lui qui décide. Ce n'est pas non plus un testament, car je n'ai rien à vous léguer. Désolé. Sinon, un peu d'affection fraternelle. Ce n'est pas non plus une oraison funèbre, car je n'ai pas l'éloquence de mon concitoyen Bossuet, qui fut un célèbre orateur, hein, et qui a parlé aux funérailles de personnages célèbres de la royauté. Non, c'est plutôt l'entrée sereine et discrète d'une nouvelle étape de vie. C'est ça. Alors, j'envisage, et je vais le faire, de mettre fin à mon statut de membre de l'association cultuelle qui s'appelle EPEAB. Ça, c'est le code, hein, sans des lettres. Car il m'apparaît sage de me retirer alors que je ne participe pas vraiment à la vie de votre église locale. Sinon, au niveau spirituel quand même. Avoir l'air comme il faut. Pendant des années, donc, j'ai bénéficié de votre profond amour en Jésus-Christ, de vos prières fidèles, de votre accueil chaleureux. Et ma reconnaissance va droit au Seigneur de l'Église qui autorisa cette communion aussi sincère, spontanée, enrichissante et durable. Amen. Non, ça n'est pas terminé. À ce jour, je suis émerveillé de constater les réels progrès de le corps local que vous constituez, rue Albert Ier. Et cela grâce à l'engagement résolu de frères solides dans la foi, grâce bien sûr à l'action de Dieu. Eh bien, que celui-ci continue à vous bénir richement pour sa gloire. Alors, je me retire sur la pointe des pieds, ce qui n'est pas synonyme d'absence de rencontres ultérieures. Dieu seul le sait. Alors, ensemble, vous au Creusot et moi à Dijon, quand je ne suis pas en voyage, nous allons poursuivre le bon combat de la foi, comme l'écrit Paul à Timothée 6,12. Le bon combat de la foi, c'est notre vocation. Alors je vous invite à une lecture sous sous la plume de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Une très belle épître, c'est mon épître préférée, mais bon, il ne faut pas le dire. On a tous des... Hein. Dernier chapitre, chapitre 6, les versets 1 à 10. Voici l'exhortation que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ces lignes que nous venons de lire, eh bien, rejoignent un peu plusieurs interventions de votre part ce matin, dans vos prières, dans votre témoignage ou votre lecture. Ces versets constituent la conclusion de l'épître aux Éphésiens et fait ressortir que très vite, on apprend, le disciple apprend que la vie chrétienne est un combat. Alors aujourd'hui, il n'y a que des guerres et des bruits de guerre, hein, comme l'a dit Jésus, l'a annoncé Jésus, des famines, des drames épouvantables. Et il a précisé, il faut que ces choses arrivent. Nous, vous aimerions qu'elles n'arrivent pas, bien sûr, mais il faut qu'elles arrivent. C'est comme ça. Alors, cela nous ramène, venons à la vie de l'église locale. L'église locale, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Hein, c'est pour ça que vous êtes là. Mais bon, ça n'est pas une activité du dimanche. Ce n'est pas un engagement à la carte, ce qui est le cas, hélas, de certains chrétiens que nous connaissons. Ce n'est pas non plus un programme pour un club, disons, religieux. La vie d'église engage tout notre être, tout notre temps, principe. Et c'est une vie difficile. C'est même une vie parfois dangereuse. Est-ce que nous nous en rendons compte? De ce passage d'Éphésiens 6, nous ne retiendrons brièvement que deux injonctions. La première, au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et la deuxième, au verset suivant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Se fortifier, résister, tenir ferme, c'est la même chose. Alors, commençons par le verset 10. Comment est-ce que nous nous sentons? Fortifiez-vous. C'est une signification. Est-ce que nous nous sentons forts ou faibles? Ça dépend des personnes. Je veux dire, dans notre vie chrétienne, est-ce que nous sommes victorieux dans bien des situations ou est-ce que nous sommes vaincus? C'est l'un ou l'autre, avec une alternative. Est-ce que vous espérez que ce moment de communion fraternelle, aujourd'hui donc, va renouveler votre être intérieur. Enfin, c'est le Seigneur qui va le faire, mais le fait d'être avec d'autres disciples a une grande valeur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je connais un chercheur à Dijon qui est membre de notre groupe Gédéon, cette association qui distribue les Nouveaux Testaments aux établissements scolaires, hôpitaux, etc., etc., qui est un témoin zélé du Seigneur. Il parle de sa foi très facilement. Et il était frappé de constater que, parce que nous avons des réunions chez eux, elle est mariée, du groupe, de constater que elle se bourre, je crois que c'est le mot, tous les jours, de compléments alimentaires. Ça lui donne des forces, apparemment. Mais ça n'empêche pas de tomber malade, ou de tomber tout court, c'est-à-dire de se casser un membre, par exemple. Alors, est-ce que c'est ces compléments qui vont lui donner les forces pour témoigner? C'est à elle de le dire, mais enfin, l'œuvre du Seigneur, c'est celle du Seigneur. Et les forces ne viennent pas d'une pharmacomanie réitérée. Parce que c'est tous les jours. Bon, bref, c'est son affaire. Dieu connaît notre faiblesse. Votre faiblesse, pas seulement, physique. Pas seulement nos défauts, nos manquements, comme ça a été dit tout à l'heure dans une prière, mais notre faiblesse naturelle, foncière, humaine. On a envie de dire par définition ou par création. Nous sommes faibles. Alors, nous sommes invités à puiser dans le Seigneur les forces que nous devons manifester. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. C'est clair. Parce que le combat spirituel est quotidien. Et puis même le dimanche, c'est peut-être un combat spirituel. Oh, je suis fatigué ce matin. Pauvre bête. Enfin, je suis fatigué, alors je vais rester chez moi. C'est pas bien grave. Bon, c'est sûr que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, heureusement. Mais la force que donne le Seigneur est toute puissante. C'est presque un pléonasme, mais enfin bon. Elle est puissance. Ça serait plus exact de dire. C'est la puissance du Seigneur qui va nous aider à tenir. Alors, par sa force toute puissante, signifie que nous n'avons pas à chercher les forces en nous-mêmes. Elles sont à notre disposition de la part du Seigneur, sa force toute puissante. Parce que nos propres forces, et vous l'avez sans doute constaté déjà, ne nous permettent pas d'aller très loin, en tout cas dans le combat spirituel à mener. C'est Dieu qui veut se glorifier dans nos vies, dans nos témoignages. C'est Dieu qui veut révéler à travers notre faiblesse humaine sa toute-puissance au reste du monde. Alors, ce que vous pouvez dire, frères et sœurs, avec Paul, comme il l'écrit 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça, c'est le paradoxe de l'Écriture, de l'Évangile. Ensuite, deuxième point, deuxième injonction, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce que vous avez amené un combat qui est précisé ici, c'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des dominations, des puissances invisibles, célestes, maléfiques. Alors, pour aller au combat, en principe, il faut s'équiper. On ne va pas au combat en gardant les mains dans les poches, ou le nez au vent, ou la fleur au fusil, comme on disait en 14, enfin 1900. Ce matin, vous avez apparemment enfilé vos vêtements. chemise, chaussettes, enfin un pantalon unisex, sans attendre que ces vêtements se mettent tout seuls sur votre personne. Vous avez fait un effort, non ? Et puis l'âge augmentant, l'effort est encore plus grand. De même, dans le domaine spirituel, Dieu attend de nous un effort, une attitude volontaire, active, pour nous équiper au combat spirituel. Parce que pour aller au combat spirituel, contrairement à la mode actuelle, on ne s'habille pas n'importe comment. Enfin, je ne parle pas de vous. Il faut un équipement adéquat. Et Paul a sans doute, peut-être devant lui, puisqu'il était en prison quand il écrivait souvent, un soldat romain. Et le soldat romain revêtait son armure dans l'ordre indiqué ici, au verset 15 à 17. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée. Ça devait être un peu encombrant, mais enfin, tenue correcte, exigée par le Seigneur. Toutes les armes de Dieu. Et ce que nous soulignons ici encore, c'est que ce sont les armes fournies par Dieu. C'est ça que ça veut dire, les armes de Dieu. Fournies par Dieu. Pas des armes que nous aurions fabriquées. Parce que les armes de Dieu sont des armes spirituelles. Nous n'allons pas aller boxer nos semblables, ne serait-ce qu'avec une Bible que nous leur assénons sur le crâne. Non. Nous n'avons pas non plus à affronter des monstres rugissants, des dragons aux narines fumantes ou à la bouche incendiaire. Non. Nous sommes aux prises avec un ennemi invisible. Et d'autant plus redoutable qu'on ne le voit pas. On voit les manifestations de sa présence. On voit les intentions qui sont derrière ces manifestations. Mais nous ne le voyons pas en soi. Alors, pourquoi cette panoplie décrite ici, versets 13 et suivants ? Pourquoi ? Eh bien, c'est la troisième partie de tenir ferme. Tenez donc ferme, après avoir tout surmonté, et prenez les armes de Dieu. Et priez, ça, nous le laissons de côté. Se fortifier dans le Seigneur, bon, comprenons ce que ça veut dire. Nous devons utiliser la force que donne le Seigneur. Nous fortifier par sa force toute puissante, donc, soit. Nous revêtir des armes qui sont décrites ici, soit. Mais le résultat, quel est-il ? Quel doit-il être ? Eh bien, le résultat, c'est de tenir ferme. C'est revenu plusieurs fois dans ce qui a été prononcé tout à l'heure par les uns et les autres. Tenir ferme. Les chrétiens de l'église d'Éphèse sont appelés à tenir ferme. Et lorsque Paul prendra congé des anciens, des responsables de cette église, donc d'Éphèse, il y aura des adieux sur la plage, et Paul les mettra en garde contre des attaques d'ordre spirituel à venir. C'est Actes chapitre 20, versets 17 à 38. Tenez ferme, ça veut dire tenez bon, ça veut dire tenez debout. C'est quand même facile quand on est assis, comme vous ce matin. Moi, je me cramponne au pupitre pour ne pas tomber. Tenez debout. Résistez. Alors, c'est un beau programme, mais pour le réaliser, eh bien, il faut en connaître l'enjeu et la nature. D'abord, l'enjeu. Alors, comme nous le disions au début, tenons-nous fermes. C'est-à-dire, sommes-nous vainqueurs dans telle ou telle situation, ou bien vaincus ? Encore une fois, pensons-nous. Si d'abord ça ne s'arrange pas, mais nos situations sont différentes. Certains d'entre nous, d'entre vous, connaissent des épreuves, sans doute, et peut-être même aujourd'hui. Le corps peut être atteint par une maladie grave, ou par un accident brutal, ou par une infirmité irrémédiable. Nous avons vu l'exemple dans la lecture de Tobie, de son livre, là. Et puis l'âme peut être atteinte par le doute, par la dépression. J'ai connu dans l'église à Dijon un frère qui était déprimé. C'était presque périodique. Et pourtant, il aimait le Seigneur. Enfin, je dis ça, je parle au passé parce qu'il est mort. Maintenant, il est près du Seigneur. Alors là, il ne doit plus tellement douter. Mais bon, enfin, j'espère. Et puis, il peut y avoir des problèmes familiaux, des tensions en couple, des difficultés avec un enfant. Alors aujourd'hui, ça, apparemment, ça se règle dans la rue. Enfin, entre eux. C'est tragique. Et puis, il y a les persécutions que connaissent bien nos frères et sœurs, en Afrique, en Asie, etc., où les responsables d'église sont assassinés, des disciples emprisonnés, des bibles brûlées. Alors, en apprenant ces nouvelles, que pouvons-nous dire d'autre que, au Creusot, vous, ici, ben vous êtes privilégiés. Nous sommes des privilégiés en tant que disciples de Christ. Et Dieu nous dit, tenez ferme. Alors, quel que soit le combat que vous ayez à mener d'un point de vue local et pratique, quelle que soit l'épreuve que vous traversiez, ou la pression que vous ressentez, eh bien, pensez à l'enjeu. L'enjeu, c'est l'honneur et la gloire de Dieu. Dieu est le Seigneur de l'univers. Il attend notre reconnaissance. Il attend que nous le reconnaissions, que nous le croyions. L'enjeu, c'est Dieu lui-même. Et si nous gardons cette pensée à l'esprit, eh bien, nous aurons peut-être plus de facilité à tenir ferme. Parce que c'est pour l'honneur de Dieu, ce n'est pas pour le nôtre. Ce n'est pas pour celui de l'Église, c'est pour l'honneur de Dieu. Et puis, la deuxième chose à retenir, c'est de bien comprendre quelle est la nature du combat. Nous l'avons déjà un peu relevé tout à l'heure. Un combat, une bataille, peut revêtir deux formes. Forcément. Ça peut être un combat défensif, on est maître du terrain et on cherche à le garder, à le rester, donc oui, en défendant son territoire. Cas d'Ukraine en ce moment. Ou alors le combat est offensif. L'on ne possède pas le territoire que l'on convoite et l'on combat pour le conquérir. Parfait, la Russie aujourd'hui. Et pour nous, Dieu nous demande de tenir ferme, de tenir bon. Il ne nous demande pas d'attaquer, bien que nous ayons des armes pour le faire si nous le voulions. Il ne nous demande pas d'attaquer, mais de tenir notre position ferme en Jésus-Christ, de tenir la position que nous occupons en Jésus-Christ. Et l'adversaire de nos âmes, eh bien, cherche par différents moyens à nous déloger de cette position. Position, nous l'occupons depuis notre conversion à Dieu. Alors, nous n'avons pas à lutter pour conquérir, occuper un terrain que nous occupons déjà. Ça n'a pas de sens. Nous avons simplement, si j'ose dire, à tenir et à tenir ferme. Comme Paul disait donc, nous l'avons rappelé tout à l'heure, aux Éphésiens dont il prenait congé, il y aura parmi vous des loups cruels. Et un loup, ça croque. Principe. Hein? Ah oui. Il n'y a pas que les loups, mais enfin bon, d'autant que l'expression est appliquée à des humains parfois. Les Éphésiens ont à lutter contre des hommes enseignant des choses pernicieuses. Ça, nous dit Paul. Il n'annonce pas un avenir brillant. Alors pour terminer, en pratique, comment tenir ferme? Je vais donner la recette du grand chef, ce Seigneur. Alors en pratique, tenons-nous fermes, toujours debout. L'Écriture nous dit que nous sommes assis. Ça tombe bien. Nous sommes assis, mais attention, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, toujours Éphésiens. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis. Donc nous avons une position qui, en principe, est stable. Enfin, ça n'empêche pas certains jours de se lever du mauvais pied. Faites-vous preuve de résilience, pour utiliser un mot à la mode aujourd'hui, parce que le vocabulaire change. En ne cédant pas de terrain à l'ennemi. Et puis sur quel terrain avons-nous les pieds posés, finalement? Celui de Dieu? Ah ben oui, hein, un chrétien, voyons. Seulement, ou le bout des orteils, enfin ça c'est les doigts, c'est pas les orteils, ou le bout des orteils un petit peu sur le territoire ennemi, mais juste un petit peu. Oh, c'est pas bien grave. Mais si, ça peut être grave, ça peut avoir des conséquences. Alors l'ennemi va nous attaquer selon nos faiblesses, il va viser la tête, ou le torse, ou la taille, ou les pieds. Porterons-nous l'armure correspondante, le casque, la cuirasse, la ceinture, les chaussures. Un ennemi qui va essayer de nous faire perdre confiance en Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, dans sa parole pour nous, a-t-il réellement dit, ça c'est la vieille ancienne, elle date du jardin d'Éden, car l'instillation du doute est l'arme fatale. Qui regardent la télé connaissent, hein, enfin, je suppose. Douter de la bonté de Dieu, nous faire douter de l'amour de Dieu. Oh ben, le Seigneur ne m'aime pas, puisqu'il m'abandonne, il ne répond pas à mes prières. Douter de notre ministère, peut-être, de nos capacités à l'exercer. On se sent parfois un petit peu miteux. Satan est à la manœuvre, ça vous le saviez déjà, pour nous pousser au compromis, nous pousser à la convoitise, nous pousser à l'infidélité, à la révolte même. Il y a des disciples qui se révoltent parce que Dieu ne nous exauce pas comme nous le voudrions. Et ça, c'est une arme assez efficace de la part du diable. Alors, comment tenir ferme ? Plusieurs cas difficiles ont été cités tout à l'heure dans des personnes qui connaissent de grandes difficultés pour elles-mêmes ou pour leur famille. Seigneur, tu vois ma détresse? Tu vois où j'en suis? Et cette situation me dépasse. Eh bien, Dieu vous rappelle que Jésus a été victorieux à la croix. Sa victoire est donc la mienne. Je dois me l'approprier. Sa victoire est la mienne dans ma difficulté, dans mon épreuve, dans mes problèmes. Et puis, il nous faut garder un point de vue céleste. Enfin, pas tout le temps regarder en l'air, parce que ça paraît très bizarre au bout d'un moment, mais réaliser que nous sommes citoyens des cieux. Philippiens 3, 20. Notre cité à nous est là-haut, même si nous avons les pieds sur terre. Puis certains ont la tête dans les nuages. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Est-ce que vous avez votre passeport sur vous? Enfin, c'est peut-être une carte d'identité. Mais le passeport, c'est mieux. Ça permet de passer les ports. Hein, c'est ça que ça voulait dire, que ce soit un port maritime ou un port terrestre. Avez-vous votre passeport? Votre passeport, eh bien, c'est le fait que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Alors, nous irons au ciel. Donc, toujours prêt à partir, avec le passeport dans la poche. Tenir ferme, c'est encore veiller à notre comportement. Parce que parler de Jésus-Christ est une chose, pour certains, elle est facile. Mais il nous faut veiller à la façon dont nous nous comportons de façon générale dans la société et avec les autres. Parce que les incroyants nous regardent. Certains même nous surveillent. Ah, tiens, ce matin, il n'est pas allé à l'office. Il n'a pas sorti sa voiture du garage. Bon, il pourrait être malade, mais enfin, c'est tout de suite remarqué. Et chose que j'ai expérimentée une fois, où les non-chrétiens sont souvent lucides et parfois plus que les chrétiens. Et ils voient tout de suite si le comportement n'est pas en accord avec le message. Alors, tenir ferme, pour terminer, avant de conclure, c'est encore être ancré dans la parole de Dieu. Tout simplement, c'est tout bête si j'ose dire, enfin c'est pas très respectueux, mais bon, c'est tout simple. Sans chercher des révélations inédites ou des sensations fortes, les chrétiens papillons qui se prennent pour des aigles, hein, dont on nous a parlé tout à l'heure, bon, enfin des aigles. Et ces chrétiens-là vont d'une église à une autre. Et puis ils sont insatisfaits parce que la nouvelle église visitée, ben, elle n'est pas mieux que la précédente. Alors ils tournent en rond comme ça, et puis ils perdent leur temps, ils perdent de l'énergie, et ils ne sont pas très utilisables par le Seigneur. Mais ancrons-nous dans cette parole, et si nous le faisons, eh bien, nous constatons qu'une paix profonde nous envahit, une paix surnaturelle qui dépasse toute intelligence, comme écrit Paul aux Philippiens. Toute intelligence. Cette paix est vraiment un privilège extraordinaire. Elle ne demande qu'à nous envahir chaque jour. Et si vous êtes en paix avec vous-même, avec Dieu bien sûr d'abord, eh bien, c'est un grand bonheur. Alors en conclusion, ben, fortifiez-vous les amis, chers frères et sœurs, et revêtez toutes les armes de Dieu. Alors venez avec la panoplie dimanche prochain. Hein. Il y aura un cliquetis de métal, etc. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Tout surmonté, ça c'est plus difficile à mettre en pratique. Alors, cette exhortation que Paul adressait aux Philippiens, eh bien, elle est pour nous aujourd'hui. Parce que nous passons par tous les états d'âme, si j'ose dire, dans notre vie chrétienne. Nous connaissons de grandes joies, hein, par exemple la communion fraternelle, comme ce matin, des exaucements de prières, des personnes qui répondent à l'évangile que nous leur professons. Mais il y a aussi des difficultés, il y a de l'opposition, tout ne va pas comme sur des roulettes, c'est la vie. Il y a des persécutions. Et l'Écriture nous rappelle que notre vie chrétienne, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas une grande avenue, hein. Ce n'est pas un long fleuve tranquille à la surface duquel flottent des pétales de roses. Hein. Le lion rugira encore. Le diable rôdera encore. Les champions pour cela. Mais la force toute-puissante du Seigneur nous fortifiera. Ça, c'est une certitude. Christ n'est-il pas vainqueur? Vainqueur de la mort? Vainqueur de la puissance du péché? Et nous et vous, vous êtes vainqueur? Oui? Non, vous n'êtes pas vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est quand même pas rien. Hein? Vainqueurs si nous persévérons avec courage en faisant notre part. Si nous faisons, enfin, oui, si nous faisons notre part, bien Dieu fera le reste. Pas dire une part parce que ça aurait tendance à minimiser l'action du Seigneur. Dieu fera le reste. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez l'adage. Hein? C'est ce que j'essaie de faire pour ma part. Durant 40 ans de ministère d'ancien à Dijon, 23 ans de présidence de l'association cultuelle, alors, j'en ai vu, comme on dit. Il y a eu des moments exaltants, de grande joie, des campagnes d'évangélisation inter-église, plusieurs fois à Dijon, oui. Il y a eu des rencontres d'autres frères et sœurs, d'autres villes. Il y a eu l'accueil d'étudiants. Il y a eu des repas en commun gastronomiques. Hein. Forcément, en Bourgogne, ça ne peut pas être autrement. Vraiment des choses qu'on voit moins maintenant. Et puis, il y a eu, hélas, des moments moins drôles. Il y a parfois eu des tensions dans les réunions de membres. Mais enfin, je suis sorti vivant, grâce à Dieu. Sinon, je ne serais pas là, c'est une évidence. Monsieur de la Palisse doit se retourner dans sa tombe. C'est ainsi la vie de l'Église. Mais l'impression qui reste, qui demeure, et c'est ça qui compte, après un demi-siècle de vie d'Église, c'est une profonde reconnaissance à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour les forces apportées au moment voulu, ni avant ni après, heureusement, au moment voulu et choisi par Dieu. Et ça, c'est une expérience que vous vivez sans doute et que vous vivrez encore, que cette amour profond que Dieu a pour chacune de ses créatures et en particulier pour chacun de ses disciples. Alors, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, ici au Creusot, dans les semaines, les mois à venir, qu'il vous inspire dans votre marche commune, nous avons besoin de ses directives, qu'il vous renouvelle sa grâce, ses bontés, chaque matin, comme on dit dans les lamentations de Jérémie, chaque matin, et puissiez-vous continuer à être un flambeau au Creusot, à la gloire de Dieu. Alors c'est le vœu d'un papy gaga, enfin bientôt gaga, hein. Pas confondre avec une certaine madame. Voilà, c'est une sœur qui rit, c'est charmant. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir. Je vous laisse ajouter la musique ou pas. Voilà.